Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nos lectures en liberté habituelles avec la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Qui est-ce, Nelly ? Dit Catherine à côté de moi. J'avais été si attentive à épier le couple dehors que je n'avais pas remarqué son entrée. Votre indigne ami, répondis-je avec chaleur. Le vil gredin qui est là-bas. Ah ! Il nous a aperçus, il vient. Je me demande s'il aura le cœur de trouver une excuse plausible pour faire la cour à Miss après vous avoir dit qu'il la haïssait. Madame Linton vit Isabelle se dégager et s'enfuir dans le jardin. Une minute après, Heathcliff ouvrait la porte. Je ne pus m'empêcher de donner cours à mon indignation, mais Catherine m'imposa silence avec colère et menaça de m'expulser de la cuisine si j'osais être assez présomptueuse pour faire intervenir mon insolente langue. « À vous entendre, on croirait que c'est vous qui êtes la maîtresse !» s'écria-t-elle. « Tenez-vous donc à votre place. » « Heathcliff, à quoi pensez-vous de soulever tout ce tapage ?»« Je vous ai dit de laisser Isabelle tranquille. Je vous prie de m'écouter, à moins que vous ne soyez las d'être reçue ici et que vous ne vouliez que Linton vous ferme le verrou au nez. » Dieu le préserve de s'y essayer, répondit le sinistre coquin, que je détestais à ce moment-là. Que Dieu le conserve doux et patient. Chaque jour, j'ai une envie de plus en plus folle de l'envoyer au ciel. Chut, dit Catherine, en fermant la porte intérieure, ne me tourmentez pas. Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de ma prière? Est-ce Isabelle qui s'est mise à dessein sur votre chemin? « Que vous importe, grommela-t-il. J'ai le droit de l'embrasser si cela me plaît, et vous n'avez rien à y voir. Je ne suis pas votre mari. Vous n'avez pas à être jalouse de moi. »« Je ne suis pas jalouse de vous. Je suis jalouse pour vous. Déridez ce visage. Je ne vous permets pas de prendre cet air renfrogné devant moi. Si Isabelle vous plaît, vous l'épouserez. Mais vous plaît-elle ? « Dites-moi la vérité, Heathcliff. » Là, vous ne voulez pas répondre. Je suis sûr qu'elle ne vous plaît pas. Et Monsieur Linton approuverait-il le mariage de sa sœur avec cet homme ? Demandai-je. Monsieur Linton devra l'approuver, repartit ma maîtresse d'un ton décidé. Il pourrait s'en épargner la peine, observa Heathcliff. Je me passerai fort bien de son approbation. Quant à vous, Catherine, j'ai quelques mots à vous dire pendant que nous y sommes. Je veux que vous n'ignoriez pas ceci. Je sais que vous m'avez traité d'une manière infernale. Infernale, entendez-vous? Et si vous vous flattez que je m'en aperçois pas, vous avez perdu la tête. Et si vous croyez que je me laisserai consoler par des paroles mielleuses, vous êtes stupide. Et si vous vous figurez que je souffrirai sans me venger, je vous convaincrai du contraire d'ici fort peu de temps. En attendant, merci de m'avoir révélé le secret de votre belle-sœur. Je jure que j'en tirerai le meilleur parti possible. Et ne vous en mêlez pas. Quelle nouvelle face de son caractère est cela ? S'écria Madame Linton, stupéfaite. Je vous ai traité d'une manière infernale et vous voulez vous venger ? Mais comment vous y prendrez-vous, brute ingrate ? En quoi vous ai-je traité d'une manière infernale ?
Je ne cherche pas à me venger sur vous, répondit Heathcliff avec moins de véhémence. Ce n'est pas là mon plan. Le tyran opprime ses esclaves et ce n'est pas contre lui qu'ils se tournent. Ils écrasent ceux qui se trouvent sous leurs pas.
Vous pouvez, pour vous amuser, me torturer jusqu'à la mort. Mais permettez-moi de m'amuser un peu, moi aussi, de la même façon, et abstenez-vous de m'insulter autant que vous en êtes capable.
Après avoir rasé mon palais, n'érigez pas une cahute et n'admirez pas complaisamment votre propre charité en me la donnant pour demeure. Si j'imaginais que vous souhaitez réellement de me voir épouser Isabelle, je me couperais la gorge.
Oh, le mal vient de ce que je ne suis pas jalouse, n'est-ce pas ? Bon, je ne vous renouvellerai pas mon offre d'une femme. C'est aussi mal que d'offrir à Satan une âme perdue. Votre bonheur, comme le sien, consiste à infliger la souffrance. Vous le prouvez. Edgar est guéri de la mauvaise humeur à laquelle il avait donné cours lors de votre arrivée. Je commence à me sentir en sécurité et tranquille, et vous, ne pouvant supporter de nous savoir en paix, vous paraissez décidé à provoquer une querelle. Querellez-vous avec Edgar, si cela vous plaît, Heathcliff, et trompez sa sœur. Vous aurez trouvé exactement la manière la plus efficace de vous venger sur moi. »
La conversation, c'est ça. Madame Linton s'assit près du feu, irritée et sombre. Le démon qui était en elle devenait intraitable. Elle ne pouvait ni l'apaiser, ni le réfréner. Lui se tenait devant l'âtre, les bras croisés, ruminant ses pensées mauvaises. C'est dans cette situation que je l'ai laissé pour aller trouver mon maître qui se demandait ce qui retenait Catherine en bas si longtemps.
Hélène, demanda-t-il quand j'entrai, avez-vous vu votre maîtresse ?
Oui, elle est dans la cuisine, monsieur.
Elle est toute bouleversée de la conduite de monsieur Heathcliff, et vraiment je crois qu'il est temps de mettre ses visites sur un autre pied. Trop de douceur ne vaut rien. Et voici où en sont venues les choses. »
Je racontai la scène dans la cour et aussi fidèlement que je l'osais toute la dispute subséquente. Je pensais que je ne pouvais porter ainsi grand préjudice à Madame Linton à moins qu'elle ne se fît tort à elle-même par la suite en prenant la défense de son hôte. Edgar Linton eut de la peine à m'écouter jusqu'au bout. Ses premiers mots révélèrent qu'il n'exemptait pas sa femme de blâme.
« C'est intolérable !» s'écria-t-il. « Il est honteux qu'elle l'avoue pour amie et qu'elle m'impose sa société. Faites-moi venir de l'office deux hommes, Hélène. Je ne veux pas que Catherine s'attarde plus longtemps à discuter avec ce bas coquin. Voilà trop longtemps que je lui passe ses fantaisies. »
Il descendit, ordonna au domestique d'attendre et entra dans la cuisine où je le suivis. Ceux qui s'y trouvaient avaient repris leur discussion courroucée. Madame Linton, du moins, grondait de plus belle. Heathcliff s'était approché de la fenêtre, la tête basse, un peu démontée apparemment, par cette violente semonce. Ce fut lui qui, le premier, aperçut le maître. Vite, il fit signe à Catherine de se taire. Elle obéit brusquement en découvrant la raison de ce geste.
« Qu'est-ce ceci ? » dit Linton. En s'adressant à elle, quel sentiment déconvenance pouvez-vous bien avoir pour rester là, après le langage que vous a tenu ce drôle ?
Je suppose que vous n'y attachez pas d'importance, parce que c'est sa manière ordinaire de s'exprimer. Vous êtes habitué à sa vilenie, et vous vous figurez peut-être que je m'y habituerai aussi.
Est-ce que vous avez écouté à la porte, Edgar ? Demanda ma maîtresse. Sur un ton particulièrement calculé pour provoquer son mari, un ton qui impliquait à la fois l'insouciance et le dédain de son irritation.
Heathcliff, qui avait levé les yeux pendant le discours d'Edgar, ricana à cette répartie dont le dessein semblait-il de détourner sur lui l'attention de M. Linton. Il y réussit. Mais Edgar était résolu de ne pas se laisser aller envers lui à des transports de colère.
« J'ai été jusqu'à présent indulgent pour vous, monsieur, » dit-il tranquillement.
Non que j'ignorasse votre caractère méprisable et dégradé, mais parce que je sentais que vous n'étiez que partiellement responsable. Comme Catherine désirait de rester en relation avec vous, j'y ai consenti. Sottement. Votre présence est un poison moral qui contaminerait les plus vertueux. Pour cette raison, et pour prévenir des suites plus graves, je vous refuserai à l'avenir l'accès de cette maison, et je vous avertis maintenant que j'exige votre départ immédiat. 3 minutes de retard rendraient ce départ involontaire et ignominieux.
Heathcliff toisa la taille et la carrure de son interlocuteur d'un œil plein de dérision.
Cathy, votre agneau que voilà menace comme un taureau, dit-il. Il court le risque de se fendre le crâne contre mes poings. Par Dieu, monsieur Linton, je suis au désespoir que vous ne valiez même pas qu'on vous envoie rouler à terre.
Mon maître jeta un regard vers le corridor et me fit signe d'aller chercher les hommes. Il n'avait pas l'intention de se risquer à une rencontre personnelle. J'obéis à son indication.
Mais madame Linton, soupçonnant quelque chose, me suivit. Quand j'essayais d'appeler les hommes, elle me repoussa, ferma violemment la porte et tourna la clé. « Joli procédé, dit-elle, en réponse au regard de surprise courroucé de son mari. Si vous n'avez pas le courage de l'attaquer, faites-lui vos excuses ou reconnaissez-vous battu. Cela vous corrigera de l'envie de feindre plus de bravoure que vous n'en avez. Non, j'avalerai la clé avant que vous l'attrapiez. Je suis admirablement récompensé de ma bonté pour vous deux. Après une constante indulgence pour la faible nature de l'un et la mauvaise nature de l'autre, je reçois comme remerciement 2 témoignages d'ingratitude aveugle, stupide jusqu'à l'absurdité. Edgar, j'étais en train de vous défendre, vous et les vôtres, et je voudrais que Heathcliff vous roua de coups à vous en rendre malade pour avoir osé mal penser de moi.
Les coups ne furent pas nécessaires pour produire cet effet sur le maître. Il essaya d'arracher la clé à Catherine qui, pour plus de sûreté, la jeta en plein milieu du feu. Sur quoi, M. Edgar fut saisi d'un tremblement nerveux et devint mortellement pâle. Pour rien au monde, il n'aurait pu dominer cet excès d'émotion. L'angoisse et l'humiliation réunies l'accablaient complètement. Il s'appuya sur le dossier d'une chaise et se couvrit le visage.
Ô ciel, dans les anciens temps, voilà qui vous eût valu les éperons de chevalier, s'écria madame Linton. Nous sommes vaincus, nous sommes vaincus. Heathcliff ne lèverait pas plus un doigt contre vous que le roi ne mettrait son armée en marche contre une bande de souris. Courage, on ne vous fera pas de mal. Vous n'êtes pas un agneau, mais un levreau à la mamelle.
Je vous souhaite bien du plaisir avec ce lâche qui a du lait dans les veines, Cathy, dit son ami. Je vous fais compliment de votre goût, et voilà l'être bavant et frissonnant que vous m'avez préféré. Je ne voudrais pas le frapper avec mon poing, mais j'éprouverais une satisfaction considérable à le frapper avec mon pied. Pleure-t-il ou va-t-il s'évanouir de peur ?
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Heathcliff s'approcha et secoua la chaise sur laquelle Linton s'appuyait. Il eût mieux fait de rester à distance. Mon maître bondit soudainement et lui porta à la gorge un coup qui aurait renversé un homme plus frêle. Il en eut la respiration coupée pendant une minute. Tandis qu'il suffoquait, M. Linton sortit dans la cour par la porte de derrière et de là revint vers la porte de la façade. « Voilà, vos visites ici sont terminées, » s'écria Catherine. « Partez maintenant, il va revenir avec une paire de pistolets et une demi-douzaine d'hommes de renfort. S'il a entendu notre conversation, il ne vous pardonnera jamais. » Vous m'avez joué un vilain tour, Heathcliff, mais partez, dépêchez-vous. J'aimerais mieux voir Edgar aux abois que vous. Pensez-vous que je vais m'en aller après ce coup qui me brûle la gorge ? Dit-il d'une voix tonnante. Par l'enfer, non. Avant de franchir le seuil, je lui écraserai les côtes comme je ferais d'une noisette pourrie. Si je ne le terrasse pas tout de suite, je le tuerai une autre fois. Ainsi, pour peu que vous teniez à son existence, laissez-moi le rejoindre. Il ne vient pas par ici, interrompis-je en forgeant un petit mensonge. Voilà le cocher et les deux jardiniers. Vous n'allez sûrement pas attendre qu'ils vous jettent sur la route. Chacun d'eux a un gourdin et le maître, très vraisemblablement, est en observation à la fenêtre du petit salon pour voir s'ils exécutent ses ordres. Les jardiniers et le cocher étaient bien là. Melinton y était avec eux. Ils étaient déjà entrés dans la cour. Heathcliff, à la réflexion, résolut d'éviter une risque avec trois subalternes. Il saisit le tisonnier, fit sauter la serrure de la porte intérieure et s'échappa au moment qu'ils entraient. Madame Linton, qui était très agitée, me dit de la suivre en haut. Elle ignorait la part que j'avais prise à cette scène et je tenais beaucoup à la maintenir dans cette ignorance. Je suis presque folle, Nelly, s'écria-t-elle en se jetant sur le sofa. Un millier de marteaux de forgerons battent dans ma tête. Dites à Isabelle de ne pas se montrer devant moi. C'est elle qui est la cause de tout ce trouble, et si elle ou tout autre aggravait en ce moment ma colère, je deviendrais enragée. Et puis, Nelly, dites à Edgar, si vous le revoyez ce soir, que je suis en danger de tomber sérieusement malade. Je souhaite que cela devienne une réalité. Il m'a affreusement choqué et peiné. Je veux lui faire peur. En outre, il pourrait venir me dévider une kyrielle d'injures ou de plaintes. Je suis sûr que je récriminerai, et Dieu sait comment cela finirait. Voulez-vous faire ce que je vous demande, ma bonne Nelly ? Vous savez que je ne suis blâmable en rien dans toute cette affaire. Qu'est-ce qui lui a pris d'écouter aux portes ? Les paroles de Heathcliff ont été outrageantes après que vous nous avez eus quittés. Mais j'aurais bientôt réussi à le détourner d'Isabelle et le reste ne signifiait rien. Maintenant, tout est gâté par l'envie d'entendre dire du mal de soi qui obsède certaines gens comme un démon. Si Edgar n'avait pas surpris notre conversation, il ne s'en serait pas plus mal trouvé, vraiment. Quand il m'a entreprise sur ce ton d'irritation déraisonnable après que je venais de gronder Heathcliff à son sujet, à en être enroué, je ne me souciais guère de ce qu'ils pouvaient se faire l'un à l'autre. Avant tout, je sentais bien que de quelque façon que se termina la scène, nous serions tous séparés. Dieu sait pour combien de temps. Si je ne peux pas garder Heathcliff pour ami, si Edgar veut être vil et jaloux, j'essaierai de briser leur cœur en brisant le mien. Ce sera une manière expéditive d'en finir, en cas que je sois poussé à bout. Mais c'est une condition à réserver pour le moment où tout espoir sera perdu. Je ne voudrais pas prendre ainsi Linton par surprise. Jusqu'à présent, il a été bien avisé dans sa crainte de me provoquer. Il faut que vous lui représentiez le danger qu'il y aurait à se départir de cette prudence, que vous lui rappeliez ma nature passionnée qui se laisse entraîner quand elle est excitée jusqu'à la furie. Je voudrais que vous puissiez chasser de son visage cette apathie et avoir l'air plus inquiet à mon sujet. L'impassibilité avec laquelle je recevais ces instructions était sans doute assez exaspérante, mais c'est en toute sincérité qu'elles étaient données.
mais je pensais qu'une personne capable de projeter par avance, de tirer parti de ses accès de colère, pouvait bien, par un effort de volonté, arriver à se dominer suffisamment, même pendant qu'elle était sous l'influence de ses accès. Je n'avais nulle envie de faire peur à son mari, comme elle disait, et d'augmenter les ennuis de celui-ci pour servir son égoïsme. Aussi ne dis-je rien quand je rencontrai mon maître qui se dirigeait vers le petit salon. Mais je me permis de revenir sur mes pas pour écouter s'il reprendrait leur querelle. Ce fut lui qui parla le premier.
Demeurez où vous êtes, Catherine, dit-il, sans aucune colère dans la voix, mais avec beaucoup d'abattement et de tristesse. Je ne resterai pas longtemps. Je ne suis venu ni pour disputer, ni pour me réconcilier, mais je voudrais seulement savoir si, après les événements de ce soir, vous avez l'intention de continuer votre intimité avec...
Oh, par pitié !
Interrompit ma maîtresse en frappant du pied.
Par pitié, ne parlons plus de cela pour le moment.
Votre sang toujours calme ne connaît pas les ardeurs de la fièvre. Vos veines sont remplies d'eau glacée. Les miennes sont en ébullition et la vue d'une telle froideur les fait bondir.
Pour vous débarrasser de moi, répondez à ma question, insista M. Linton. Il faut que vous me répondiez. Et cette violence ne m'alarme pas. J'ai découvert que vous pouviez être aussi stoïque que n'importe qui quand cela vous plaît.
Voulez-vous désormais renoncer à Heathcliff ou voulez-vous renoncer à moi? Il est impossible que vous soyez à la fois mon ami et la sienne. Et j'exige absolument que vous disiez qui vous choisissez.
J'exige que vous me laissiez seul, s'écria Catherine avec fureur. Je le veux. Ne voyez-vous pas que je puis à peine me soutenir? Edgar, laissez-moi.
Elle tira le cordon de la sonnette jusqu'à le briser. J'entrai doucement. C'en était assez pour mettre à l'épreuve l'humeur d'un saint, que des rages aussi insensées, aussi perverses. Elle était là, étendue, frappant de la tête sur le bras du sofa et grinçant des dents, à croire qu'elle allait les faire voler en éclats. Monsieur Linton, debout, la regardait soudain pris de remords et de crainte. Il me dit d'aller chercher un peu d'eau. Elle n'avait plus de souffle pour parler. J'apportai un verre plein. Et comme elle ne voulait pas boire, je lui aspergeai la figure. En quelques secondes, elle s'allongea, devint raide et renversa les yeux, tandis que ses joues, soudain décolorées et livides, revêtaient l'aspect de la mort. Linton paraissait frappé de terreur.
« Il n'y a pas à s'inquiéter le moins du monde, » murmurai-je.
Je ne voulais pas qu'il cédât, quoique je ne pusse m'empêcher d'être effrayé en moi-même.
« Elle a du sang sur les lèvres, » dit-il en frissonnant.
« Peu importe, » répondis-je sèchement. Je lui racontai comment elle avait résolu, avant son arrivée, de donner le spectacle d'une crise de fureur. J'eus l'imprudence de lui en faire part tout haut, et elle m'entendit. Car elle se dressa, les cheveux épars sur les épaules, les yeux flamboyants, les muscles du cou et des bras saillants d'une façon anormale. Je prévoyais quelques hausses brisées pour le moins. Mais elle se borna à regarder un instant autour d'elle, puis s'élança hors de la pièce. Mon maître m'enjoignit de la suivre, ce que je fis. Jusqu'à la porte de sa chambre. Elle m'empêcha d'aller plus loin en la fermant sur moi.
Le lendemain matin, comme elle ne manifestait pas l'intention de descendre déjeuner, j'allais lui demander si elle désirait qu'on lui montât quelque chose.
« Non, » répondit-elle d'un ton péremptoire. La même question fut répétée à l'heure du dîner et à celle du thé, et encore le jour suivant, et elle reçut toujours la même réponse.
Monsieur Linton, de son côté, passa son temps dans la bibliothèque et ne s'informa pas de ce que faisait sa femme. Isabelle et lui eurent un entretien d'une heure, pendant lequel il s'efforça de découvrir en elle quelques traces du sentiment d'horreur qu'auraient dû lui inspirer les avances de Heathcliff. Mais il ne put rien tirer de ses réponses évasives et fut obligé de clore son enquête sans avoir obtenu satisfaction.
Il ajouta toutefois ce grave avertissement que, si elle était assez insensée pour encourager cet indigne prétendant, tout lien de parenté entre elle et lui serait rompu.
Tandis que Miss Linton errait tristement dans le parc et dans le jardin, toujours silencieuse et presque toujours en larmes. Tandis que son frère s'enfermait avec des livres qu'il n'ouvrait jamais, tourmenté, je m'en doutais, de la vague et perpétuelle attente que Catherine, se repentant de sa conduite, viendrait de son plein gré demander pardon et chercher une réconciliation. Tandis que Catherine, de son côté, s'obstinait à jeûner, probablement dans l'idée qu'à chaque repas, Edgar allait suffoquer en ne la voyant pas paraître, et que l'orgueil seul le retenait de courir se jeter à ses pieds. Je continuais, quant à moi, à vaquer au devoir du ménage, convaincu que la grange ne contenait dans ses murs qu'un esprit sensé, et que cet esprit était logé dans mon corps. Je ne prodiguais ni condoléances à Miss, ni remontrances à ma maîtresse. Je ne prêtais guère plus d'attention aux soupirs de mon maître, qui brûlait du désir d'entendre parler de sa femme, puisqu'il n'en pouvait entendre la voix. Je résolus de les laisser se tirer d'affaire comme il leur plairait. Bien que ce fût un procédé d'une lenteur fastidieuse, je finis par apercevoir avec joie une lueur de succès. Je le crus du moins d'abord. Le troisième jour, Madame Linton déverrouilla sa porte. Et comme elle avait épuisé l'eau de sa cruche et de la carafe, elle en demanda d'autres, ainsi qu'un bol de gruau, car elle se jugeait mourante. Je considérais ses propos comme destinés aux oreilles d'Edgar. Je n'en croyais pas un mot, de sorte que je l'ai gardé pour moi et lui apportai un peu de thé et de pain grillé. Elle mangea et but avec avidité, puis retomba sur son oreiller, les poings serrés et en gémissant. « Oh, je veux mourir !» s'écria-t-elle, « puisque personne ne s'intéresse à moi. Je regrette d'avoir pris cela. » Un bon moment après, je l'entendis murmurer. « Non, je ne veux pas mourir. Il en serait heureux. Il ne m'aime pas du tout. Je ne lui manquerai pas. »« Désirez-vous quelque chose, madame ?» demandai-je, conservant toujours mon calme apparent en dépit de son caractère de spectre et de l'étrange exagération de ses manières. « Que fait cet être apathique ?» demanda-t-elle en repoussant de son visage épuisé les épaisses boucles emmêlées. « Est-il tombé en léthargie ou est-il mort ?»« Ni l'un ni l'autre, » répliquai-je. « Si c'est de M. Linton que vous voulez parler, il se porte assez bien, je pense, encore que ses études l'occupent plus qu'il ne faudrait. Il est continuellement au milieu de ses livres depuis qu'il n'a plus d'autre société. » Voilà donc pour ce soir. Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.